Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui voudraient suivre les textes qui seront lus, je vous ai remis la liste des petits prophètes. Hein. C'est des tout petits livres, il n'y a pas beaucoup de pages, ce n'est pas forcément facile à trouver dans la Bible. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est de continuer une méditation commencée il y a deux mois maintenant sur le livre d'Habacuc. Et comme ce message, je l'ai donné à l'occasion d'une journée où beaucoup d'entre vous étaient à la montagne, eh bien je commencerai par résumer le premier message qui parlait essentiellement du premier chapitre d'Habacuc. Habacuc a exercé son ministère pendant le règne de Josias et ses successeurs aux alentours des années 600 avant Jésus-Christ. Il a été contemporain de Jérémie et d'Ézéchiel, et vous voyez la petite flèche rouge là en bas de la chronologie de l'histoire du royaume de Juda. Eh bien déjà, ça nous montre une chose, c'est qu'on est à la fin de l'histoire du royaume de Juda, tout en bas, alors c'est un peu petit, mais le dernier événement, ici, c'est l'exil à Babylone. Donc vous voyez, ce sont des circonstances pas faciles. Et alors que Josias fut un bon roi, fidèle à l'Éternel, il n'en a pas du tout été de même de ses fils, notamment Jéhoiakim, qui fut un roi cruel, qui s'est éloigné de Dieu. Sur le plan politique, il a cherché des alliances avec l'Égypte et il a fait le mauvais choix puisque les vainqueurs, ça a été Babylone à l'époque, et donc il s'est retrouvé dans le camp des perdants. Et il est quand même intéressant d'essayer de comprendre le pourquoi de ces événements, parce que le livre d'Habacuc, c'est pas un livre facile à lire, et le texte que nous allons méditer ce matin n'est pas non plus facile, puisque dans ma Bible, il s'intitule « Les cinq malheurs », c'est pas quelque chose de très gai, mais en même temps, je pense que il faut aussi qu'on fasse l'effort, dans des textes pas faciles, de comprendre ce qu'Habacuc a pu trouver comme raison d'espérer, même dans des circonstances difficiles. Et les circonstances de ce texte, elles nous sont annoncées dans le deuxième livre des rois, au chapitre 21, où c'est Dieu qui parle et qui dit « À cause du roi Manassé, roi de Juda, qui s'est rendu coupable de tous ses actes abominables, qui a même fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et qui a entraîné le peuple de Juda dans le péché et dans l'idolâtrie, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais amener sur Jérusalem et sur Juda un malheur tel que ceux qui voudront en parler seront abasourdis. Je vais faire subir à Jérusalem le même sort qu'à Samarie. » Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'histoire, le sort de Samarie, c'est les 10 autres tribus d'Israël qui ont été déportées avant Juda et qui, elles, ne sont parvenues. Et je les réduirai au même état que la descendance d'Akab. Akab, c'est un des pires rois qui régnait sur Israël. Je viderai la ville de ses habitants, et regardez l'image, comme on nettoie un plat et qu'on le retourne à l'envers après l'avoir nettoyé, à la poubelle. J'agirai ainsi parce qu'ils ont fait ce que je considère comme mal et qu'ils n'ont pas cessé de m'irriter depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas parlé à la légère, l'heure de son jugement approche. Et je retiens une chose de cette lecture dans Deux Rois, c'est que Dieu exerce là un acte de justice. Ça nous paraît difficile à accepter. Mais ce n'est pas du tout gratuitement que ces événements se produisent. La situation intérieure en Juda est déplorable et Habacuc commence son livre en interrogeant Dieu et en lui disant « Mais jusque à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri ? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices ? On ne respecte plus la loi. » Les méchants empêchent les justes d'agir, les jugements rendus sont corrompus, enfin tout va mal, plus personne n'écoute Dieu. C'est un appel au secours qu'Habacuc lance. Et je ne sais pas ce que vous pensez de notre actualité, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se soucient de la loi de Dieu ? Dans notre pays, ça ne semble pas du tout évident. La première réponse de Dieu, eh bien, il annonce la suite des événements. « Je vais faire venir les Chaldéens, ou les Babyloniens, ce sont les mêmes, peuple féroce et déchaîné, pour prendre possession des demeures d'autrui. » Habacuc aurait aimé que Dieu envoie des solutions pour que Juda revienne de ses mauvaises voies. Eh bien non, Non seulement Dieu décide de ne rien faire pour changer l'attitude de cœur de son peuple, mais pire, il va l'exposer à un peuple de barbares déchaînés. Et la réaction d'Habacuc, ça va être d'abord de dire à Dieu « Je ne te reconnais pas dans ce que tu annonces. Je ne comprends pas. Ce n'est pas toi. Tu ne peux pas tenir un langage pareil. » Habacuc est honnête et il dit à Dieu qu'il a le plus grand mal à accepter et à comprendre ce que Dieu lui annonce. Et pourtant, il ne va pas se révolter, mais il va s'exprimer à Dieu avec franchise et respect, et il dit « Je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira. » Il ne comprend pas, il est abasourdi par la réponse, mais il ne perd pas l'espoir. Et Dieu va honorer cette deuxième réponse, et va lui donner, pardon, une deuxième réponse, où il va lui révéler plus précisément ce qu'il va faire. Il viendra un jour lui-même pour rétablir l'ordre et la justice. Il faut donc attendre avec patience son intervention. Attendre, je ne sais pas si vous aimez, moi j'aime pas particulièrement. Et c'est vrai que cette période d'attente met le croyant à l'épreuve. C'est pas facile de croire que Dieu tient en main les rênes de l'histoire lorsqu'on voit le méchant triompher partout. Mais le verset clé, me semble-t-il, dans ce livre, c'est « Le juste vivra par la foi, alors que le méchant triomphe et que Dieu tarde à venir, le juste est appelé à s'accrocher à la promesse, à persévérer dans la confiance, à cultiver l'espérance en dépit des circonstances qui pourraient le faire douter. » Et voilà, nous arrivons au texte qui nous intéresse aujourd'hui, que je lirai en plusieurs fois. En quoi ça peut être une bonne nouvelle ou un encouragement pour Habacuc et pour nous d'entendre parler de malheur? Alors j'ai essayé d'imaginer une situation un peu comparable. Alors c'est pas une situation que j'ai vécue, mais mes grands-parents l'ont vécue, mes parents-enfants l'ont vécue, c'est l'occupation en 1940. Vous savez que je suis originaire du nord de la France et on a connu la présence des Allemands pendant 5 ans. Imaginez pour ces gens qui étaient chassés de chez eux, là on va parler de l'exode à Babylone, les gens du nord ont dû quitter le nord aussi pour fuir les fronts. Imaginez l'écho que ça peut avoir dans leur tête d'entendre ces mots de Dieu. Malheur, le tyran sera abattu. Ce que vous voyez, ça aura une fin. En 1940, je me souviens d'en avoir parlé avec mon grand-père, il y avait un sentiment de honte indicible. Comment un pays comme la France pouvait connaître ça? Avoir fui, ne pas s'être battu. Et cette armée qui avançait, cette armée allemande qui avançait d'une façon implacable. Il n'y a que quelques rares personnes courageuses et visionnaires qui ont pensé que peut-être un jour cela cesserait. Malheur, ça veut dire que Dieu ne ferme pas les yeux, que Dieu voit ce qui se passe et qu'il va bientôt intervenir. Pour l'occupation, ça a duré 5 ans. Ça a paru long, vous savez. Malheur aux accapareurs, au verset 6. Mais un jour, tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs et des proverbes ironiques. Contre lui, c'est contre les Babyloniens, contre l'envahisseur. Et l'on dira « Malheur à lui, car il amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Il accumule un lourd fardeau de dettes. Tes créanciers ne surgiront-ils pas soudain? Ils se réveilleront pour te faire trembler. Ne seras-tu pas mis au pillage par eux? Toi qui as dépouillé des nations innombrables, tu seras dépouillé par les peuples qui restent, car tu as répandu le sang des hommes. » Tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. C'est un tout petit mot qui introduit ce premier verset, mais. Quand on dit mais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a une rupture. Ce mais, c'est déjà une petite lueur d'espoir. Un jour, c'est bien vague. Dieu reste souverain. Il dévoile ce qu'il veut bien nous révéler en nous demandant de lui faire confiance. Et les versets qui suivent lèvent un petit peu le voile du pourquoi cette volte-face. Pourquoi est-ce que soudain les opprimés vont reprendre le dessus? Eh bien, personnellement, moi, je trouve dans ces versets un sentiment d'injustice profond qui motive les gens, qui disent « Tu t'es enrichi, mais ce n'était pas juste, c'était violent. » Et parce qu'ils ont été injustes et cruels, les Chaldéens, pardon, et parce qu'ils se sont crus invincibles aussi au-dessus des lois, eh bien, le texte nous dit « Il s'est accumulé un lourd fardeau de dettes. » Et après tout, ce n'est que justice si leurs victimes les dépouillent à leur tour. On pourrait appeler ça l'arroseur arrosé ou l'effet boomerang. Les Chaldéens se sont crus tout permis, tout leur réussissait, et ils en ont abusé. Et la parole nous dit, vous qui avez dévalisé des peuples, eh bien ces peuples vont à leur tour vous dévaliser. Et alors que vous croyez être victorieux, eh bien, en fait, vous étiez en train d'accumuler une dette sur votre tête et un jour, vos créanciers vont vous réclamer des comptes. Et là, je me dis qu'il y a un enseignement à retenir. Quand on voit ces Chaldéens qui se croyaient invincibles, bien, il faut bien savoir que le péché ne passe jamais inaperçu aux yeux de Dieu et que plus on s'enfonce dans le péché, eh bien, plus la dette augmente. On peut avoir un temps l'impression que le péché est sans conséquence, qu'on passe à travers les gouttes, comme on dit, mais un jour ou l'autre, plus ou moins rapproché, Dieu nous fait récolter ce que nous avons semé. Alors vous allez me dire, mais c'est l'Ancien Testament, aujourd'hui on a la Nouvelle Alliance, Dieu pardonne. Oui, bien sûr, ça n'enlève rien au message de la Nouvelle Alliance. Mais est-ce que Dieu nous a promis que nous ne serions jamais obligés de porter les conséquences de notre péché ? Il a dit qu'il oublierait nos péchés, qu'il ne s'en souviendrait plus, qu'il serait pardonné. Est-ce que ça veut dire que pour cela, ils n'auront plus de conséquences? Dans 2 Chroniques, on nous parle du roi Manassé. Manassé qui a été un roi exécrable. Et pourtant, il nous est dit, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il le pria, et l'Éternel l'exauça. Il écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi Manassé comprit que l'Éternel seul est Dieu. Même Manassé a été pardonné. Mais ses péchés ont continué à produire leur effet. Regardez la suite des événements. Si on pense à David aussi, un homme selon le cœur de Dieu, le fils qu'il a enfoncé avec Bathsheba est mort. Son autre fils Absalom s'est levé contre lui. David était un homme aimé de Dieu, mais les fautes qu'il a commises ont quand même produit leurs fruits. Même si nous sommes pardonnés, même si nous sommes sincères dans notre repentance, sachons bien que le péché a toujours des conséquences. Continuons notre lecture. Malheur à qui amasse un profit malhonnête pour toute sa famille et cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs pour le mettre à l'abri de tout malheur. Oui, c'est le déshonneur de ton propre royaume que tu as préparé. En détruisant de nombreux peuples, tu t'es fait tort à toi-même. Car du sein des murailles, les pierres vont crier. De la charpente, les poutres leur feront écho. Dieu dénonce ici ceux qui sont prêts à tout pour parvenir à leur fin, pour ceux qui ne voient que leur propre intérêt, qui bafouent le droit des autres, parfois sous le prétexte fallacieux de veiller au bien-être de leur famille. Alors qu'ils croyaient travailler pour assurer leur prospérité, leur sécurité, Dieu leur dit « C'est le déshonneur de votre propre royaume que vous avez préparé, vous vous êtes fait du tort à vous-même. » Péché, c'est se faire du tort. En faisant mal aux autres, on se fait aussi et peut-être d'abord du mal à soi. Les Babyloniens se sont comportés comme des vautours, mais les vrais perdants, ce sont moins les victimes que les agresseurs. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce que faire le mal, c'est s'accumuler un trésor de colère pour le jour du jugement. Parce que le mal, c'est une corruption de ce que nous sommes vraiment. Le péché, ça nous défigure, ça nous salit, ça nous déforme. Ça déforme l'image que Dieu avait placée en nous. Ça ne ressemble pas à ce que Dieu voudrait que nous soyons. Péché, c'est se faire du tort. Et comme je l'ai déjà signalé, le péché, ne croyons pas qu'il restera caché. Les versets insistent ici en disant « Quand bien même les Babyloniens auraient réduit tout le monde au silence, si plus un seul homme n'avait la possibilité de parler, soit parce qu'ils étaient terrorisés, soit parce qu'ils en étaient purement et simplement empêchés, eh bien les pierres et les poutres prendraient la parole et crieraient pour les déclarer coupables. » Dieu, lui, voit au-delà des apparences, il voit l'intérieur du cœur, il entend, voit même ce qui est caché. Et ces pierres et ces poutres qui crient, bien, il me semble qu'elles nous parlent aussi en nous disant « Est-ce que vous oseriez crier ? Est-ce que vous oseriez dire « Malheur à celui qui... » Alors, il y a des tas de situations où on voit le mal devant nous à l'œuvre. Et si vous me permettez, j'ouvrirai une parenthèse. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler à l'époque de la conférence du Cap, en 2010, où des chrétiens du monde entier se sont réunis. Ils ont produit un engagement à la fin de ce congrès, et je voudrais vous en lire un extrait. Nous avons reçu le commandement de refléter l'amour et la justice de Dieu par un amour et une justice pratique pour ceux qui sont dans le besoin. Un tel amour pour les personnes pauvres exige que nous ne nous contentions pas d'aimer la miséricorde et les œuvres de compassion, mais que nous rendions aussi la justice en exposant à la lumière tout ce qui opprime et exploite le pauvre et en nous y opposant. Nous ne devons pas craindre de dénoncer le mal et l'injustice où qu'ils soient. Nous confessons à notre honte que nous avons sur ce sujet échoué à partager la passion de Dieu, échoué à incarner l'amour de Dieu, échoué à refléter le caractère de Dieu et échoué à accomplir la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est fort quand des églises viennent à dire « Nous avions une mission et nous avons échoué. » Nous renouvelons notre consécration à promouvoir la justice. Nous reconnaissons qu'un tel combat contre le mal possède une dimension de guerre spirituelle qui ne peut être livrée autrement que par la victoire de la croix et de la résurrection dans la puissance de l'Esprit-Saint et avec une prière constante « Que Dieu nous y aide. » Je dois reconnaître que cet échec, c'est aussi le mien. Je n'ai pas de leçon à vous donner en particulier. Je vous laisse avec ce texte qui nous interpelle. Pratiquer le bien, oui, mais dénoncer le mal, ce n'est pas forcément plus facile et nous y sommes appelés aussi. Reprenons notre lecture au verset 12. Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime. Quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu, et quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes? Car la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Le prophète Daniel nous décrit la fierté de Nabucodonosor face à la cité qu'il avait construite. On peut lire dans Daniel 4 au chapitre 27 « Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi dit « N'est-ce pas là Babylone la grande que j'ai reconstruite comme une résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ?» La fierté et l'orgueil de Nabucodonosor étaient tels que les archéologues et historiens ont découvert qu'il avait fait marquer sur chaque pierre, il avait fait graver son nom. Et on nous parle de doubles fortifications, d'enceintes, de murailles de plus de 25 mètres d'épaisseur. Imaginez, ça en fait des briques, ça en fait le nom de Nabucodonosor recopié. Si on devait modéliser ça en mathématiques, on dirait c'est l'infini, quoi. Mais cette hauteur prétentieuse, Nabucodonosor l'avait fondée sur l'injustice et le sang. Et face à cette gloire humaine qui cherche à s'élever, Dieu va opposer la sienne. Et ici, Dieu va se manifester par le feu, qui est le symbole du jugement et de l'anéantissement. Quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu, quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel ? Dieu a rendu vains tous les efforts, toute cette gloire, toutes ces constructions, il les a réduites en cendres, alors qu'elles étaient a priori indestructibles. L'apôtre Paul, lui aussi, nous interpelle à sa façon en reformulant autrement ces mêmes pensées, et on pourrait résumer ça en disant « Mais, et nous, pourquoi travaillons-nous ? Quelles sont nos fondations ?» Dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15, Paul nous dit que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qu'il se révélera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite demeure, il recevra un salaire. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Lui, certes, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Le salaire dont il est question, pour moi, ce n'est pas le salut, parce que je pense que le salut, Dieu nous l'a promis et Dieu l'accordera à celui qui se repent. Le salaire ici, c'est ce qui restera de nos œuvres. Comment nos œuvres traverseront-ils le feu du jugement ? Parce que le jugement, il n'est pas réservé aux méchants. Nous devrons tous comparaître au tribunal de Christ. Les uns pour être sauvés, certains sauvés comme sortant du feu. Je ne sais pas, vous avez déjà vu des images de gens qui se sauvent d'un feu couvert de fumée, les habits qui commencent à se consumer, enfin il ne reste vraiment pas grand-chose. Est-ce que c'est comme ça que nous voulons sortir du jugement ? Reprenons notre lecture. Malheur à toi qui force ton voisin à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Toi aussi tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi tu boiras et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de colère que l'Éternel te tendra de sa droite. Le déshonneur recouvrira ta gloire. Encore l'effet boomerang. Tu seras submergé par la violence même que tu as exercée contre la forêt du Liban. Le massacre des animaux retombera sur toi pour t'écraser, car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville, et tous ses habitants. Ce sont des images, hein, évidemment, qui sont utilisées ici pour décrire les événements. Jérémie utilise aussi cette image de la coupe de vin. Dans Jérémie 51, au verset 7, il nous dit « Babylone était dans la main du Seigneur une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont perdu la tête. » Et j'ai lu dans un commentaire que c'était en fait une technique, comment je veux dire, une façon de procéder diplomatiquement pour Babylone. Babylone approchait ses ennemis d'abord en faisant ami-ami. Une fois qu'ils avaient commencé à entretenir des relations, etc., eh bien, ils se retournaient contre eux, ils les attaquaient et hop, ils devenaient leurs subordonnés. Cette image du vin ici, on en connaît les effets. Hein, quand on a bu un peu trop, eh bien, ça désinhibe, on parle un peu plus, on parle un peu plus vite. On se met à raconter des histoires que on ne raconterait pas en temps normal. On se dévoile un peu. Et puis, ben, on montre un peu nos faiblesses aussi. En préparant ce message, je relisais un texte où Ézéchias, après avoir obtenu une grâce de Dieu et 15 années de vie supplémentaires, reçoit des Babyloniens et leur dit « Mais regardez mon palais !» Et il leur fait tout visiter. Il leur montre tout. Puis résultat, ben, il va se faire dépouiller. C'est ça qui est dénoncé ici. Quand on parle d'ivresse, on est en confiance. Alors on se dévoile. On fournit de précieux renseignements qui serviront à se faire attaquer. L'adversaire nous fait baisser la garde. Il nous endort. Et ensuite, il pourra mieux nous attaquer. Et là encore, Dieu répond, non pas pied à pied, puisque l'expression biblique c'est œil pour œil, dent pour dent. Si selon les mots de Jérémie, Babylone était tout à l'heure dans la main du Seigneur pour faire boire la coupe du jugement aux nations, eh bien la puissante main de Dieu la lui donne à boire à son tour. Babylone dévoile à son tour sa nudité, son cœur mauvais, son caractère pécheur. Dépouillée à son tour de tout ce qui constituait sa gloire et son prestige, elle aussi connaîtra la honte. Dernier malheur, intitulé dans ma Bible « Malheur aux idolâtres ». On a souvent des passages comme ça dans la Bible où Dieu défie les idoles et où il dit ici « À quoi sert une idole sculptée par l'artisan ?» ou une statue de métal fondu qui n'est qu'un guide mensonger. Car celui qui l'a faite se confie en son œuvre pour fabriquer une idole muette. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois, réveille-toi. À la pierre muette, allons, sors du sommeil. Peuvent-ils enseigner? Voici, ils sont plaqués d'or et d'argent, mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. L'Éternel se tient dans son saint temple, que le monde entier fasse silence devant lui. Quel contraste entre ce dernier verset et ceux qui précèdent. L'homme fabrique des idoles et il leur donne rang de divinité. Et Habacuc, dans ce texte, montre l'absurdité de ce comportement. En montrant comment les choses sont fabriquées, Dieu nous révèle leur absence de pouvoir. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait encore beaucoup de gens pour adorer des statues, même si j'ai été surpris de certains comportements. On continue à voir des gens qui vont baiser le pied d'une statue, croyant s'attirer des bénédictions, mais enfin, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'idoles à notre époque? En quoi est-ce que nous plaçons notre confiance? La médecine, pour nous soigner, pour nous faire vivre plus longtemps? Voire pour revenir à la vie, vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà payé cher pour te faire congeler, avec l'espoir qu'ils pourront revenir plus tard. Je ne sais pas si vous avez vu le film Hibernatus, ça ne donne pas vraiment envie de revenir après une parenthèse de 50 ans, mais enfin bon. Est-ce que c'est la technologie sur laquelle ils s'appuient pour leur offrir le confort? Est-ce que c'est leur profession, leur compte en banque, leur statut social, les assurances qu'ils ont souscrites pour ne pas être dans le besoin et se protéger des aléas de la vie? Sur quoi repose notre confiance? Est-ce que tout ce que je viens d'énoncer a plus de pouvoir que les idoles dénoncées par Habacuc? Alors bien sûr, l'homme moderne peut avoir l'impression que, avec tous les progrès qui sont effectués, on va y arriver un jour. Bon, je sais bien que pour beaucoup d'entre vous, je suis peut-être déjà un vieux, quand on approche de 60 ans, pour quelqu'un qui en a 20, c'est déjà un autre monde. Mais même à mon âge, je peux témoigner que il y a des questions qui paraissent possibles aujourd'hui, qui à 20 ans étaient encore complètement inimaginables. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va vivre 120 ans, que c'est une histoire de temps, mais c'était complètement inimaginable. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui croient que ça va se faire, et que donc la solution est là. Et nous, en quoi nous mettons notre confiance? Ça nous interpelle. J'arrive à l'heure de la conclusion et je voudrais retenir simplement trois idées principales. Le péché n'est jamais sans conséquence. C'est pas agréable de se l'entendre dire, c'est pas encourageant, parce qu'on sait qu'on est pécheur. Et on sait qu'on continue par notre péché à travailler à notre malheur. Et pourtant, c'est une vérité. On ne peut pas se le cacher, on ne peut pas se lire que les versets qui nous disent que nous sommes sauvés, que Dieu est bon, qu'il pardonne. Ceux qui ont dépouillé les peuples ont été dépouillés. Ceux qui ont été malhonnêtes ont perdu ce qu'ils avaient mal acquis. Ceux qui ont bâti des villes au prix du sang ont perdu le bénéfice de tout cela. Celui qui intrigue pour profiter d'autrui, eh bien, sera couvert d'infamie. Et adorer les idoles n'a jamais mis quiconque à l'abri du jugement de Dieu. Mais au contraire, cela attire la colère de Dieu sur soi. Deuxième idée, il ne faut pas se fier aux apparences. Au lieu de remettre en question la manière d'agir de Dieu, prenons conscience qu'il est parfaitement juste. C'est difficile à croire, hein, quelquefois. Parfaitement juste. J'ai oublié les détails, mais je me souviens d'un témoignage d'une personne déportée dans un camp de concentration qui voyait un Allemand se comporter de façon absolument ignoble avec un prisonnier et qui se disait, qui a murmuré à voix basse, « Mais où est Dieu ?» Et une personne à côté lui a répondu « Il est là, montrant la personne qui était terrassée par cet Allemand. » Même dans ces circonstances, comme disait Colin, celui qui sauve ne sait pas sauver lui-même. On n'y comprend rien. Mais Dieu reste maître de toutes choses. Un jour, le jugement viendra pour le méchant, mais n'oublions pas qu'il viendra pour nous aussi. Et troisième idée, il nous faut persévérer, ne pas désespérer. Dans Hébreux 10, on peut lire « Il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas de plaisir en lui. Quant à nous, et ça cette parole elle nous est adressée, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. J'aurai l'occasion de revenir dans un troisième message sur le chapitre 3 d'Habacuc, où là nous verrons comment Habacuc reçoit toutes ces paroles, toutes ces séries de malheurs. Et on essaiera de prendre exemple sur lui. Mais dès maintenant, l'Épître aux Hébreux nous interpelle en disant « Allons ». De l'avant. Ne croyons pas, enfin, ne laissons pas les apparences nous décourager. Ne nous laissons pas impressionner, mais faisons confiance à Dieu. Celui qui doit venir viendra. Et celui qui doit venir, vous savez qui c'est, bien sûr, comme moi. C'est Jésus. La terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Nous l'avons lu. Je ne sais pas cette image de l'eau qui recouvre le fond des mers quand on connaît les profondeurs abyssales de l'océan, ce n'est pas un petit vernis qu'il va y avoir. La gloire de l'Éternel va couvrir la terre. Cette connaissance de l'Éternel, nous l'avons déjà en partie, à travers la révélation de Jésus-Christ qui s'est déjà incarné, qui est déjà venu. Et comment ne pas citer ce verset de Acte 1, verset 11, trois jours après l'Ascension, où il est dit « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Que cette promesse nous aide à vivre dans l'attente de Dieu et de son retour. Amen.